Mes bien chers frères, tout d'abord, avant de commencer le sermon, quelques annonces. Samedi prochain, je donnerai le baptême d'adulte à une personne, le baptême sous condition à quelqu'un qui a été baptisé chez les protestants, et puis je les marierai. Et je leur donnerai pour la première fois la première communion. Je recommande donc cette famille à vos prières. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous voici arrivés à l'étude, la méditation des œuvres de miséricorde. Vous vous rappelez que nous nous posons la question : que faire dans la terrible épreuve que subit l'Église et que subit la société aujourd'hui ? Il y a urgence à s'asseoir pour réfléchir avant d'agir. Notre Seigneur dit que celui qui ne s'assied pas pour étudier la situation est semblable à quelqu'un qui bâtit la maison sur le sable ou qui va à la guerre avec des forces inférieures à celles de son adversaire. C'est pourquoi nous prenons le temps de réfléchir. Notre pauvre monde souffre d'une pauvreté cruelle. Et par conséquent, la première chose à faire est de lui rendre la richesse que Dieu veut lui donner et dont il s'est privé. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'Évangile, parle des œuvres de miséricorde, et on retient habituellement les œuvres de miséricorde corporelles, c'est-à-dire donner à manger, donner à boire, recueillir à la maison celui qui erre et n'a pas de toit. Mais il y a également des œuvres qui sont déjà un peu plus spirituelles, comme de visiter les malades, les prisonniers. Il ne s'agit pas seulement de les soigner, il s'agit de les réconforter. La tradition de l'Église a ajouté racheter les captifs dans la droite ligne de visiter les prisonniers, et des congrégations religieuses se sont consacrées à cela, notamment les trinitaires et puis l'ordre de la Merci. Les religieux faisaient le vœu de se livrer en esclavage à la place des esclaves prisonniers, principalement des morts en Afrique du Nord. Saint Paulin de Nole également s'est mis en esclavage. Alors cette fois-ci, ce n'était pas un esclavage chez les païens, c'était un esclavage romain, donc beaucoup plus digne. Mais il s'est livré en esclavage alors qu'il était évêque pour secourir une pauvre femme dans le besoin. Finalement, il racheta sa liberté. L'Église a toujours complété, depuis le début, les œuvres de miséricorde corporelle par les œuvres de miséricorde spirituelle. C'est pas seulement qu'elle a complété, c'est qu'elle a donné, évidemment, un sens spirituel aux œuvres de miséricorde énoncées dans l'Évangile. La première des œuvres de miséricorde spirituelle, c'est d'enseigner la vérité, d'enseigner ceux qui sont dans l'erreur. La deuxième, c'est de donner des bons conseils à ceux qui en ont besoin, ce qui est une forme d'aumône, dit saint Thomas d'Aquin. De même, corriger les pécheurs, la correction fraternelle, qui est aussi une forme d'aumône. Et puis, pardonner les offenses, supporter les injustices, consoler les affligés, prier pour nos amis, nos ennemis, pour les vivants et pour les morts. il y a un ordre, évidemment, dans les œuvres de miséricorde. Les corporels sont au service des spirituels. Et c'est un drame que aujourd'hui, ce qu'on peut appeler la révolution, les ennemis de Dieu, nous ont volé les œuvres de miséricorde corporelle. On entend parler aujourd'hui des œuvres caritatives des musulmans, voire même des œuvres caritatives des francs-maçons, ce qui est un non-sens, puisque les œuvres caritatives sont des œuvres qui naissent de la charité, et que ni les francs-maçons ni les musulmans n'ont la charité chrétienne, la charité envers Dieu. Cela veut dire tout simplement que nos adversaires connaissent l'importance des œuvres de miséricorde. Ils savent que la chrétienté s'est faite sur elle et avec elle. Il n'est que de penser à la libération des prisonniers, à certaines grandes fêtes, à Rouen par exemple, pour la fête de l'Ascension, on délivrait chaque année un condamné, et un condamné à mort ou un condamné à la prison. Et cela se faisait sur la place de la Haute Vieille Tour. Il est intéressant de noter que ces œuvres de miséricorde dans la ville de Rouen, bien loin de favoriser le laxisme, c'est-à-dire la rechute des criminels, au contraire, favorisaient leur conversion. Lorsque Louis XV rendit visite à la ville de Rouen, celle-ci ne possédait pas de police. Il n'y avait pas de policiers à Rouen, il n'y avait pas de force de l'ordre, il n'avait pas besoin, il n'est plus besoin. Et certainement, on peut attribuer cela à la miséricorde chrétienne qui avait mis un tel sens de l'amour de Dieu que la loi, la morale, était respectée sans avoir besoin de la police. Il est évident, vous disais-je, que la Révolution connaît l'importance des œuvres de miséricorde. Et c'est pour ça, d'une part, qu'elle a essayé d'interdire à l'Église de pratiquer les œuvres de miséricorde. Pour cela, elle lui a pris, par exemple, tous ses biens qui finançaient les hôtels Dieu, qui finançaient les fondations de messe, etc. Elle les lui a pris plusieurs fois, d'ailleurs deux fois. Une première fois à la Révolution française et une seconde fois en 1905. Et elle a confisqué les œuvres de miséricorde. Elle a mis des entraves à la pratique de la miséricorde. Et elle a prétendu exercer la République. La Révolution a prétendu exercer la miséricorde elle-même. C'est toutes les œuvres qu'on appelle sociales, tous les secours aux indigents, aux malheureux. Et il faut quand même bien reconnaître, hélas, que les catholiques libéraux, sous prétexte d'efficacité, ont donné la main, au fin 19e et surtout début 20e, ont donné la main à la gauche pour séculariser les œuvres de miséricorde. C'est toujours la même chose. Les libéraux ne voient que les résultats immédiats. Ils refusent de voir l'esprit qui règne dans une œuvre. Et c'est comme ça que, régulièrement, ils se font avoir et ne veulent pas le reconnaître d'ailleurs. Les œuvres de miséricorde corporelles sont porteuses d'un état d'esprit. C'est pourquoi tant de religieuses se sont occupées du soin des malades, de la consolation des familles en deuil, du soin de toutes les misères. Un musulman qui me véhiculait avec Blablacar me disait qu'il connaissait un petit peu la religion catholique parce que des religieuses venaient les secourir lorsqu'il, sa famille, venait d'arriver en France à Saint-Étienne et n'avait pas de quoi vivre. Ce sur quoi je lui ai fait remarquer qu'en Algérie, ils avaient de quoi vivre, mais ça, c'est une autre affaire. Grâce à cela, ce musulman se tourne vers les personnes qui étaient dans la voiture en leur disant « Si j'avais su que j'aurais un jour l'honneur de transporter un prêtre, on voit que les œuvres de miséricorde corporelle sont porteuses d'un état d'esprit. Les œuvres de fausse miséricorde laïque républicaine sont également porteuses d'un état d'esprit, qui est un état d'esprit laïque et républicain, donc un état d'esprit de haine. Pas du tout de miséricorde ni d'amour, mais de haine. Étant donné que les œuvres de miséricorde corporelle sont au service des spirituels, cela veut dire que les spirituels ont plus d'importance que les corporels. Et si on regarde l'œuvre des missionnaires en Papouasie, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas exercé, ou très peu, la miséricorde corporelle pour se consacrer presque exclusivement à la miséricorde spirituelle. Miséricorde corporelle un tout petit peu, bien entendu, on ne peut pas passer à côté de quelqu'un qui a faim ou qui est malade sans le soigner. Mais les papous n'avaient pas faim, ils étaient très bien nourris par une nature luxuriante et généreuse. Malades, oui, ils pouvaient l'être. Et c'est un drame, vous voyez, un drame que le libéralisme a mis dans nos esprits, que cette primauté de la miséricorde corporelle, qui fait qu'on donne plus importance au corps qu'à l'âme. Lorsque les missionnaires en Papouasie voient le monde moderne qui va bientôt entrer dans leur mission, ils savent que ces richesses corporelles, matérielles, loin d'être une bénédiction, vont être une malédiction pour la mission. Et de fait, ils essayent de protéger les jeunes chrétientés de cet afflux de richesses qu'ils voient venir, ils n'y arriveront pas. Et ces richesses pourriront les chrétientés en Papouasie. Ce sera la même chose en Afrique. Monseigneur Lefebvre nous disait « Faites bien attention, vous n'êtes pas envoyé pour donner les richesses matérielles. » Et c'est justement parce que ces gens-là n'ont pas de richesses matérielles qu'il faut leur donner les richesses essentielles qui sont les richesses de l'esprit. Sinon, on fait des envieux. Le père Timon David, fondateur des patronages de jeunesse à Marseille, les patronages ouvriers, alors que le père allemand était fondateur des patronages bourgeois, le père Timon David se faisait une loi de jamais secourir en argent quelqu'un. Il disait « Autant vous donnez d'argent, autant vous faites des ingrats, vous créez de l'amertume. Il y a d'autres richesses à donner. » Je ne dis pas qu'il ne faut pas exercer les œuvres de miséricorde, mais elles sont au service d'un état d'esprit et elles doivent être prises comme tel. On ne peut pas soulager toute misère corporelle, spirituelle non plus, hélas, mais a fortiori corporelle, et ça n'est pas souhaitable. Il n'est pas souhaitable de faire croire à l'homme qu'il peut vivre ici-bas, dans un paradis terrestre. Qu'on le soulage, lui, pour l'aider à porter sa croix, comme Simon de Cyrène a aidé Jésus à porter sa croix. Mais vous avez Sainte Véronique qui a essuyé le visage de Jésus, et je pense que la miséricorde de Sainte Véronique a encore plus de valeur que celle de Simon de Cyrène. Donc les œuvres de miséricorde corporelle, oui, elles ont de l'intérêt notamment pour les jeunes. Elles s'adaptent bien à la jeunesse, je veux dire, pas seulement les jeunes à secourir, parce que les jeunes à secourir ont besoin avant tout de catéchisme, de dévouement, donc de spirituel. Non, je parle de ceux qui secourent, qui exercent la miséricorde. À 12 ans, je ne dis pas qu'on ne peut pas exercer la miséricorde spirituelle dans la croisade eucharistique, vous m'entendez, là, les petits croisés qui écoutaient mon sermon, c'est pour vous que je parle. Dans la croisade eucharistique, on exerce très tôt la miséricorde spirituelle. Prier pour les pécheurs, pour la conversion des pécheurs, offrir des sacrifices pour la conversion des pécheurs, ce sont des œuvres de miséricorde spirituelle. Je pense que des adolescents bien élevés, c'est-à-dire élevés chrétiennement comme il convient, sont sensibles à la beauté de la miséricorde spirituelle et sont enclins à l'exercer. Malgré tout, cela reste difficile. Il reste difficile pour un jeune de 12 ans, de 14 ans, de consoler des affligés. Enfin, des jeunes affligés peut-être comme lui, mais des adultes affligés, ça sera difficile. Donner des bons conseils, il ne peut pas encore. Enseigner la vérité, ça reste très élémentaire. Pardonner les injustices, il le peut, heureusement il n'en a pas trop subi. Enfin, bien sûr, il faut l'initier à cela, il faut le préparer, il a des occasions déjà de pratiquer la miséricorde spirituelle, mais c'est par la miséricorde corporelle qu'il entrera dans la considération de la misère et qu'il découvrira que la misère corporelle a toujours une cause spirituelle, ne serait-ce que le péché originel. Et la plupart du temps, les péchés personnels de celui qui est dans la misère ou les péchés des autres qui l'ont négligé, qui ne s'en sont pas occupés, et a fortiori le péché social de la démocratie qui n'a que le mot caritatif à la bouche, mais qui néglige les misères, non seulement qu'il les néglige, mais qu'il les crée, parce que la misère est un terreau sur lequel le capitalisme fleurit, et il ne peut pas fleurir sur d'autres terreaux que la misère. Je vous en parlerai une autre fois. C'est très intéressant de voir cela, la naissance du capitalisme sur la misère humaine, notamment en Angleterre, en Allemagne, juste après le protestantisme, et en Angleterre, principalement au XVIIIe siècle. Le jeune va découvrir, à travers la miséricorde corporelle, moi je me rappelle, j'ai eu beaucoup de chance, il y avait encore la conférence à Saint-Vincent-de-Paul, à Join-l'Ambert, l'institution Join-l'Ambert, du nom du fondateur, à Rouen. C'était le dernier feu, c'était les derniers restes. Mai 68 était passé par là, et puis surtout le contrat d'association avec l'État. Ces écoles qui n'avaient que le développement à la bouche, on voulait être proche des élèves, leur donner l'esprit, parce qu'autrefois, soi-disant, on les avait... on leur avait fait entrer la doctrine à coups de marteau et ça n'avait pas pénétré, ce qui était un peu vrai, un peu faux. Enfin, toujours est-il qu'on voulait être proche des élèves. Qu'est-ce qu'on a fait? On a supprimé, évidemment, la conférence Saint-Vincent-de-Paul. C'est ce qui était encore une des dernières choses bonnes qui restaient dans cette institution. J'en ai profité, j'ai eu la grande chance d'avoir une personne âgée à m'occuper. La première était géniarde, n'avait pas besoin de grand-chose. Mon père s'en est aperçu, il m'a accompagné. Ce que je lui racontais, évidemment, je racontais à mes parents tout ce que je faisais. Et mon père s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il m'a accompagné voir cette personne. Et après, en rentrant à la maison, il m'a dit « C'est fini, tu ne retourneras plus la voir ». Je fais confiance à mon père, je dis bien papa. Bon, j'ai demandé à la conférence Saint-Vincent-de-Paul qu'on m'attribue une autre personne qui s'appelait Madame Mazingarbe, un don du ciel. Ça a été vraiment, pour moi, un don du ciel. Pour elle aussi, je suppose. Et puisque, grâce à cela, elle a reçu les sacrements. Et j'ai découvert ce qu'était... à la porte de chez nous, une misère qui n'était pas horrible, il y a pire. Enfin, les ressorts du sommier traversaient le matelas. Hein. Et quand elle est morte, elle avait des escarres gros comme le poing. Et un soir, je rentre à la maison, je dis « Maman, Madame Mazingarbe n'a rien pour dîner. Rien, tous les mois d'hiver, rien, 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 rien. » Son voisin lui allume le feu le matin, et puis le soir, il est trop pris par le vin pour pouvoir s'occuper d'elle. Et maman me dit, il y a du potage dans la cocotte minute, t'as qu'à en prendre. Et ça aussi, c'est merveilleux. Maman s'est pas déplacée pour me mettre du potage dans un récipient, elle m'a dit, tu prends dans la cocotte minute. J'ai pris le potage, je l'ai mis dans un thermos, j'ai descendu à toute vitesse avec ma bicyclette, j'ai apporté mon thermos de potage à Madame Mazargarme, et je ne sais pas qui était le plus heureux des deux. J'ai continué comme ça quand je pouvais, parce que j'ai continué lors de mes études de droit à continuer à m'en occuper. Et bon, quand j'avais un cours de pénal, de droit pénal le soir, hein, jusqu'à 19 ou 20 heures, il n'était évidemment pas question d'aller la nourrir, ce qui n'était pas grave. C'était le geste qui comptait. Alors je la prévenais. Elle me disait, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Je ne sais pas si elle savait très bien ce qu'était un cours de droit pénal. En tout cas, t'inquiète pas, je te verrai après-demain. Les œuvres de miséricorde corporelle sont très importantes pour les jeunes. Là aussi, il faut faire attention. On a, à la même époque dont je vous parle, un peu après-guerre, un peu trop insisté auprès de l'Action catholique, des jeunes d'Action catholique, sur les peintures à refaire chez les personnes âgées et sur les secours strictement matériels à apporter. On a un peu faussé la vision de la miséricorde, tant chez ceux qui l'exerçaient que chez les bénéficiaires. On a oublié de dire aux bénéficiaires qu'il était normal, comme m'a dit Léon XIII dans son encyclique sociale, Rerum Novarum, qu'il y ait normal qu'il y ait des pauvres, qu'il y aura toujours des pauvres, qu'il y avait des pauvres au pied de la croix de Jésus, et que les pauvres ont été donnés aux riches pour exercer la miséricorde, que malgré tout, on ne pourra pas faire disparaître la pauvreté. Et c'est important, ça, si, quand même, de le rappeler. Il y a une dignité dans la pauvreté. Il peut y avoir une dignité dans la pauvreté. Et c'est cette dignité qu'il faut donner, pas seulement la richesse matérielle. Si j'insiste là-dessus, mes bien chers frères, c'est parce que vous ne pouvez pas foncer tête baissée dans l'exercice de la miséricorde. Vous devez exercer la miséricorde, c'est la première de toutes les vertus humaines. Cicéron le dit, c'est la plus louable de toutes les vertus. Aristote parle également de la miséricorde, or ce sont des païens. Saint Thomas d'Aquin, bien entendu. Saint Thomas d'Aquin met la miséricorde juste à la fin de son traité de la charité, parce que, comme je vous l'ai expliqué dans un autre sermon, la miséricorde est le rayonnement de la charité, c'est-à-dire de l'amour de Dieu. Et par conséquent, il traite de la miséricorde avant de traiter de la vertu de prudence, de la vertu de justice et des autres vertus. Donc c'est vous dire si elles sont importantes. Malgré tout, bien qu'elles tiennent la première place en importance, elles supposent l'exercice de la prudence. Je vous en parlerai à propos de la vertu de prudence. L'exercice de la prudence, une réflexion. On ne fait pas n'importe quelle œuvre de miséricorde, n'importe comment, auprès de n'importe qui et avec n'importe qui et n'importe quand. C'est pas possible. Ça n'est pas raisonnable. Il faut exercer la miséricorde, et cette miséricorde est une œuvre humaine qui doit être pensée, qui doit être réfléchie, et qui doit être d'autant plus pensée et réfléchie qu'à travers une action concrète, nous voulons faire passer un esprit. Et pas seulement un esprit, mais finalement l'amour de Dieu, la foi, l'espérance, la charité, le désir du ciel. Avec cette difficulté qu'on secourt sur la terre pour donner le goût du ciel, c'est-à-dire la terre est une terre d'exil, et il faut donc surtout pas en faire, comme je vous le disais, une espèce de paradis terrestre. Les œuvres de miséricorde pour la jeunesse, les plus importantes, sont celles qui coûtent à la jeunesse. Aristote disait qu'il n'y a pas de vertu sans sacrifice. Il faut enseigner à la jeunesse qui coûte. Il faut également que la jeunesse découvre la chance qu'elle a, la grâce qu'elle a de pouvoir exercer la miséricorde. Venez à la droite les bénis de mon Père, dit notre Seigneur, dira le roi. Or, pourquoi ont-ils été bénis? Pourquoi sont-ils bénis? Parce qu'ils ont eu la bénédiction de pouvoir exercer la miséricorde. C'est pas seulement les bénis de mon Père, vous avez exercé la miséricorde, vous êtes récompensés en étant bénis. Les pères de l'Église, en commentant ce passage, disent: Venez, vous qui avez eu cette bénédiction d'exercer la miséricorde, venez à ma droite, recevoir la plénitude de la bénédiction. Les jeunes doivent découvrir cela. ils doivent découvrir, comme je vous le disais, que la misère physique a pour cause le péché. Le péché de celui qui est dans la misère ou le péché d'autrui, mais le péché. Je vous ai raconté l'histoire de cet Italien, Pier Giorgio Frassati, qui voulait être ingénieur pour secourir les ouvriers au fond des mines. C'est le capitalisme qui a mis les ouvriers dans la misère. C'est l'appât du gain strictement matériel, strictement financier. L'exercice de la miséricorde, comme toutes les œuvres de charité, donne la joie. Elle donne la joie et elle doit donner la paix. Une miséricorde inquiète n'est pas une vraie miséricorde chrétienne. Une miséricorde chrétienne est une miséricorde paisible. Je m'arrête, je me suis laissé emporter par mon sujet, c'est bien trop longtemps que je parle, mais j'avais quelque chose à vous dire, j'y reviendrai une prochaine fois. Confiez tout cela à la Sainte Vierge, à dimanche prochain, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.